Bonjour, c'est le vendredi 11 janvier 2019. Il me semble que la semaine a passé vite, vite, vite. Hélène Denis qui vous accompagne avec plaisir jusqu'à 11h30 ce matin. Bonjour Mathieu.
Hélène, bonjour.
Bonne année.
Hey, merci.
Ah, on s'est pas vu. Ben oui, on s'est croisés, dans les corridors, mais officiellement comme ça, là, à la radio, non. Alors, de la santé,
oui.
Des beaux projets,
oui.
Puis des beaux voyages.
Oui, entre autres.
OK. Alors, qu'est-ce que vous me souhaitez à moi?
La même chose, mais en commençant par la santé.
Ça, toujours.
Hein, parce qu'après ça...
Oui, tantôt, j'ai croisé quelqu'un qui m'a souhaité bonne année, plaisir, santé, puis elle a dit « Oh non, santé, plaisir ».
C'est vrai?
Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, plaisantes en ce 11 janvier? C'est relatif.
Voilà,
non.
Ça dépend qui était à l'autre bout de la lorgnette, mm-hmm. Mais... je vais remonter en 1569. Le prix de la première loterie d'État qui finance des sports et fortifications sont tirés à Londres, chapeautés par la reine-mère. Ça remonte à quand même assez longtemps, 1569. En 1787, l'astronome William Herschel découvre les deux plus grosses lunes d'Uranus, soit Titania et Obéron. Dans une pétition en 1823, 69 000 habitants du Bas-Canada dénoncent le projet d'union des deux Canada. En 1886, à New York, première partie du premier championnat du monde officiel d'échecs. En 1909, signature du traité sur les eaux limitrophes des États-Unis et du Canada, créant ainsi la Commission mixte internationale. En 1922, un Canadien de 14 ans, Leonard Thompson, est le premier diabétique traité avec succès par l'insuline. 1940, la première du ballet russe Roméo et Juliette de Prokofiev. L'ouverture du premier whisky à gogo à Los Angeles en 1963, ainsi appelée la première discothèque.
Le whisky à gogo, whisky c'est sympathique
gogo, c'est
comme
beau,
nom.
Hein?
Ouais.
Et dans la catégorie « Ça ne s'invente pas », en 1983, à cour de candidats jurés à Joliette, le juge Jean-Guy Boilard, vraisemblablement excédé, en envoie attraper sur la voie publique. On a besoin de vous, allez. Et en 2002, des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles annoncent la mise au point du premier test de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Et pour ce qui est des naissances, nous avons John Alexander MacDonald, premier ministre du Canada, qui est né à Glasgow en 1815, et l'anniversaire de naissance du 20e premier ministre Jean Chrétien, qui est né en 1934. Et pour ce qui est des décès, John Molson, brasseur et entrepreneur canadien d'origine britannique en 1836. 1966, Alberto Giacometti est décédé, le peintre et sculpteur suisse, et Anita Ekberg, j'ai toujours la misère avec ce nom-là, actrice suédoise qui était née, elle, en 1931, nous a quittés un 11 janvier 2015.
Oui, celle qui était dans la fontaine et qui appelait Marcello Mastroianni. Et j'ai fait des calculs, Jean Chrétien a 85 ans aujourd'hui.
Bien, joyeux anniversaire.
Ben oui, certainement. Merci. Une de la presse, une exclusivité pénalisée par un congé de maternité. Une médecin s'est vue refuser le transfert et la prise en charge d'une centaine de patients en raison d'un taux d'assiduité jugé insuffisant alors qu'elle était en congé de maternité. Affaire histoire d'une débâcle financière, l'entreprise de Caroline Néron se met à l'abri de ses créanciers. Pénurie de main-d'œuvre, Matane et Saint-Donat cherchent des Français. Et études de divergence de goût, le Québec et la côte ouest ne s'entendent pas sur ce qu'est un bon vin. Une omnipraticienne pratiquant dans la région du Bas-Saint-Laurent déplore de s'être vue refuser le droit de prendre en charge un bloc de 100 patients orphelins sous prétexte que son taux d'assiduité n'était pas assez élevé en 2017, année où elle était pourtant en congé maternité. Une situation qualifiée de dérive bureaucratique par son syndicat professionnel. La docteure Myriam Ouellette pratique dans la région de Trois-Pistoles. Du mois d'août 2016 à mai 2017, elle était en congé de maternité après avoir donné naissance à son premier enfant. Absente plus du tiers de l'année, la docteure Ouellette a obtenu un taux d'assiduité de 70 % en 2017. Elle est ensuite partie pour un deuxième congé de maternité à 38 semaines de grossesse en avril 2018. Dans la lettre de réponse de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, datée du 29 octobre 2018, on peut lire que pour l'année civile 2017, son taux d'assiduité, calculé selon le paragraphe 15.06 de l'entente particulière relative aux services de médecine, de prise en charge et de suivi de la clientèle, est inférieur au taux d'assiduité minimal requis de 75 %. La lettre d'entente numéro 304, signée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le ministère de la Santé et des services sociaux, permet le transfert en bloc de patients d'un médecin à un autre, à condition que le taux d'assiduité du médecin qui veut les prendre en charge ait été de 75 % ou plus dans l'année précédant le transfert. Je comprends la logique de cette règle. On ne veut pas autoriser un médecin avec un taux d'assiduité très bas à prendre en charge encore plus de patients. Mais ici, on parle d'un congé de maternité, dit la docteure Ouellette. Porte-parole de la FMOQ, donc la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Jean-Pierre Dion dit que la situation de la docteure Ouellette, quoique peu fréquente, n'est pas unique. Selon lui, il s'agit d'une dérive bureaucratique. Il s'agit peut-être d'un reste de culture qui faisait de l'assiduité une religion. On espère que ça va changer avec le nouveau gouvernement en place. Matane et Saint-Donat veulent des Français. Alors que la pénurie de main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir au Québec, un groupe de villes se rendra en France la semaine prochaine dans l'espoir de convaincre des Français de venir occuper l'un des 118 000 postes actuels vacants dans la province. On a un gros problème de pénurie de main-d'œuvre. Ça fait 15 ans qu'on en parle, mais depuis un ou deux ans, ça nous a vraiment frappé au visage, dit Jérôme Landry, maire de Matane, qui prendra part à la mission de recrutement. Le manque de travailleurs se répercute jusque dans les bacs de recyclage à Saint-Donat, dans la Naudière. Devant la difficulté à recruter du personnel, la municipalité a mis en place une collecte mécanisée pour le recyclage depuis le début de 2019. Mais pour plusieurs entreprises, la technologie ne peut pas remplacer les travailleurs dont elles ont besoin. Le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, évalue qu'une centaine de postes sont actuellement vacants dans sa ville de 3 900 habitants. Le besoin est immédiat, constate-t-il. Saint-Donat a donc décidé de participer à cette mission de recrutement en France aux côtés de 5 autres villes également touchées par la pénurie de main-d'œuvre, soit Contrecœur, Deux-Montagnes, Drummondville, Matane et Sainte-Julie. Cette délégation de l'Union des municipalités du Québec prendra ainsi part au Salon du travail et de la mobilité professionnelle qui se déroule la semaine prochaine à Paris. Il s'agit d'une importante foire attirant en moyenne 25 000 chercheurs d'emploi. Le slogan adopté par la délégation québécoise laisse peu de place à l'interprétation. On a besoin de toi, c'est urgent. À première vue, je pensais que c'était un bol avec des frites, de la sauce et du fromage, une poutine, quoi. Et non, c'est un amas de mégots de cigarettes que j'ai en pleine face pour vous parler de cet article intitulé « Plaidoyer en faveur d'un prix unique pour les cigarettes ». C'est une exclusivité de la presse, c'est Mathieu Perrault qui signe le texte. Après la fumée secondaire et les paquets neutres, le prix unique, La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac demande au gouvernement non seulement de hausser les taxes sur le tabac et d'instaurer un prix minimum pour les paquets de cigarettes, mais aussi de limiter le prix maximum des paquets. Depuis 10 ans, l'écart est de plus en plus important entre les prix des marques de cigarettes au rabais et haut de gamme. Entre 2005 et 2006, le prix des cigarettes les moins chères a diminué de 27 % au Québec. Entre 2013 et 2014, même manège avec une diminution de 4 %. Pour la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, il s'agit clairement d'une tentative de diminuer l'impact des hausses de taxes sur le tabac au même moment. Allons-y avec Legault qui confirme qu'il se penchera sur les critères d'admissibilité, aide médicale à mourir. Le premier ministre François Legault confirme que son gouvernement va se pencher sur l'élargissement de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir au moment où deux Québécois se battent en cour pour y avoir accès. « Moi, je comprends et je trouve ça triste ce que j'ai vu cette semaine », a-t-il dit hier en référence au cas de Nicole Gladue et de Jean Truchon, qui se sont tournés vers la Cour supérieure pour faire valoir leur cause. Tous deux atteints de maladies dégénératives graves et incurables, ils tentent de faire invalider les critères des lois qui les empêchent d'obtenir l'aide d'un médecin pour mettre fin à leurs jours. Interrogé à ce sujet en marge d'une annonce économique à Montréal, le premier ministre a dit que cela faisait partie des objectifs de son gouvernement de se pencher sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Il s'agissait d'un engagement électoral et il sera respecté, a-t-il confirmé. Le grand chef de la Confédération des peuples autochtones du Canada, Guillaume Carle, affirme avoir été victime d'une violente agression et de menaces de mort le matin du Nouvel An. Guillaume Carle dit avoir été dévisagé par son agresseur. En entretien téléphonique avec la presse, il a raconté comment, le 1er janvier, tôt le matin, il était en voiture avec un autre homme lorsque deux individus s'en sont pris à lui et à son passager. Le service de police de la ville de Gatineau a confirmé à la presse qu'une agression avait bel et bien eu lieu mardi dernier, à l'heure indiquée par M. Carle. Toutefois, le dossier n'ayant pas encore été approuvé par le directeur des poursuites criminelles et pénales, la police ne fournit aucun détail concernant l'identité des protagonistes et la nature exacte de l'agression. L'homme qui a attaqué Guillaume Carle l'aurait frappé à plusieurs reprises au visage. M. Carle a envoyé à la presse une photo de son visage tuméfié, une coupure sur son nez et ses deux yeux avec des ecchymoses. L'automne dernier, le grand chef Carle a fait l'objet de reportages de la presse qui levaient notamment le voile sur des manœuvres douteuses commises contre des membres de la CEPAC à leur insu. Guillaume Carle les aurait lésés en les persuadant d'investir dans des projets fictifs ou voués à l'échec. Une enquête de l'Autorité des marchés financiers a été ouverte sur ce dossier. Le Washington Post a annoncé hier qu'il allait lancer sur son site Internet une page en arabe réunissant des traductions d'éditoriaux de tribunes et de textes d'opinion. Cette page permettra d'étendre la portée du journalisme du Post aux lecteurs du monde entier et de publier des traductions de haut niveau de textes pertinents pour un lectorat parlant l'arabe, a expliqué le quotidien.
Machine à clous. vous êtes frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez.
Dans la catégorie quand on se réveille avec une chanson dans la tête, c'était Ben Charret et leur chanson, ou la chanson Belleville Rendez-vous.
C'est toujours bon ça, puis ça nous met dans l'ambiance du week-end. En une du Journal de Montréal, la dragonne Caroline Néron frappe un mur. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les magasins de bijoux de la femme d'affaires qui prodiguait des conseils aux concurrents de l'émission Dans l'œil du dragon se placent sous la protection de la loi sur la faillite. 155 milliards en taxes, impôts et cotisations, les Québécois parmi les plus imposés au monde. Caroline Néron est au bord de la faillite. Pendant que Caroline Néron prodiguait des conseils aux différents concurrents de l'émission Dans l'œil du dragon, elle en avait plein les bras avec ses problèmes financiers. C'est certain que c'était inconfortable. Je traversais des difficultés et en même temps, je devais donner des conseils. C'était surréaliste, mais je l'ai fait par passion pour l'entrepreneuriat, a confié hier à TVA Nouvelle la femme d'affaires de 45 ans qui cumulait les succès. Les magasins de bijoux, Caroline Néron, dont le chiffre d'affaires annuel est d'environ 15 millions de dollars, se placent sous la protection de la loi sur la faillite. 9 des 14 boutiques fermeront prochainement et 64 des 152 employés seront licenciés. Ce sont les erreurs du passé qui nous ont positionnés dans cette situation, a-t-elle affirmé, secouée par ses récents déboires. Dans ma tête, il y avait toujours une solution jusqu'à ce qu'on me dise « tu n'as plus le choix, ton passé est trop lourd ». Sur le plan personnel, les derniers mois ont aussi été difficiles pour Mme Néron, qui s'apprête à divorcer de l'homme d'affaires Réal Bouclain, fondateur des résidences pour aînés Réseau Sélection. Celui-ci a récemment aidé financièrement l'entreprise de sa conjointe. Or, leur union n'a pas survécu aux turbulences. Une erreur médicale aurait pu coûter la vie d'un bébé. Née le 31 octobre, la petite Alice a été admise au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke dans l'arrondissement de Fleurimont pour des problèmes respiratoires, dans la nuit du 19 au 20 décembre. Le poupon a bien failli rester, non pas à cause de la pneumonie que ses parents soupçonnaient, mais bien en raison d'une surdose de fentanyl qui lui a été administrée par le personnel infirmier. Plutôt que d'inscrire le dosage dont ma fille avait besoin, l'infirmière s'est trompée et a indiqué son poids, a expliqué la mère de 21 ans. Selon la mère, c'est le docteur qui s'occupe de sa fille qui a fini par découvrir pourquoi son cœur a éprouvé des difficultés pendant la nuit, en examinant plus attentivement son dossier médical quelques jours plus tard. Il nous a dit que si notre fille avait été dans une autre chambre où elle n'aurait pas été branchée sur des machines qui permettaient aux infirmières d'entendre son rythme cardiaque, elle serait morte, a raconté Mme Delaney avec émotion. Le personnel médical l'aurait informé que cette erreur médicale pourrait avoir des séquelles sur sa fille, comme des troubles cognitifs ou de vision, mais qu'il est encore trop tôt pour le savoir. Le bébé est toujours hospitalisé et devrait obtenir son congé jeudi prochain. Les écoles privées passent à l'action en se dotant d'outils pour les aider à gérer les cas de sexto impliquant leurs élèves. Reste à voir à quel point ils pourront être mis en pratique. Des représentants provenant de la grande majorité des écoles secondaires privées de la province étaient réunis hier à Drummondville pour une journée de formation sur les sexto, ces images à caractère sexuel fréquemment échangées entre adolescents. Selon de récentes données, près d'un jeune sur deux âgé de 15 ou 16 ans qui se fait demander des sexto accepte d'en envoyer. Cette journée de formation s'appuyait en bonne partie sur l'expertise développée par le service de police de la ville de Saint-Jérôme et le directeur des poursuites criminelles et pénales des PCP, qui ont développé une trousse d'interventions destinées aux écoles. Maître Marc Forgue du DPCP du Centre du Québec parle d'une petite révolution qui permet de limiter la diffusion d'images compromettantes, puisque la majorité des cas sont réglés en quelques jours seulement. Ça fonctionne vraiment, lance-t-il. Un réseau de trafic de drogue à nouveau ciblé. Six personnes qui tentaient de relancer un réseau de trafic de drogue démantelé il y a moins de 2 ans par la Sûreté du Québec ont été arrêtées hier en Mauricie. Un réseau de trafic de cocaïne et de méthamphétamine géré par un club école des Hells Angels n'est pas resté à terre bien longtemps. Plus d'une cinquantaine de policiers de la SQ et de la police de Trois-Rivières ont frappé dès 6 heures hier matin. Ils ont mené 5 perquisitions dans deux résidences, 2 logements et dans un véhicule à Louisville, Masquinongé et Trois-Rivières. 5 hommes ont été arrêtés et ont comparu hier au palais de justice de Trois-Rivières. La présumée tête dirigeante, Éric Durand, 49 ans, de Masquinongé, Pierre Labonne, 36 ans, de Trois-Rivières, René Rivard, 36 ans, de Louisville, André-Paul Baribeau, 58 ans, de Louisville, Éric Frappier, 40 ans de Louisville, font face à diverses accusations, dont complot, possession, trafic et vente de drogue, D'autres accusations s'ajouteront à leur retour en cour le 15 janvier, a confirmé le procureur de la Couronne. Durand, Labonne et Baribeau restent détenus en raison de leurs lourds antécédents judiciaires et de leur rôle au sein de l'organisation. Trudeau fera connaître... Pardon. C'est Mathieu là, qui se moque de moi parce qu'il y a un mot qui me revient pas. Problématique. Je préfère problème à problématique et Mathieu se moque de moi à ce sujet. Trudeau fera connaître son premier trio. Un remaniement ministériel fédéral aura lieu lundi. Le remaniement ministériel prévu lundi par Justin Trudeau lui permettra de former son premier trio de candidats en vue des élections d'octobre prochain, croient des experts. L'occasion de faire un remaniement à 9 mois des élections est survenue après la démission surprise hier matin de Scott Bryson du poste de président du Conseil du Trésor. Le quinquagénaire a également indiqué qu'il ne se représenterait pas après une carrière de près de 22 ans comme élu fédéral pour des raisons familiales. En compagnie de pays comme les États-Unis, le Brésil, le Mexique, la Colombie et le Chili, le Canada demande notamment au président vénézuélien qui a entamé hier son 2e mandat de 6 ans de céder le pouvoir à l'Assemblée nationale en attendant un nouveau scrutin. Le règne de Nicolas Maduro, perd ses dernières allures de légitimité après s'être emparé du pouvoir au terme d'élections frauduleuses et antidémocratiques tenues le 20 mai 2018. Le régime Maduro a maintenant totalement établi sa dictature. La souffrance du peuple vénézuélien ne fera qu'empirer s'il continue de s'accrocher au pouvoir illégitimement, a affirmé la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland. Thank you.
Hélène d'avoir suggéré Daniel Bélanger et la chanson « Te quitter ».
On l'aime, hein?
Mm-hmm.
Oui, je suis certaine que les auditeurs et auditrices ont été heureux de l'entendre. Quelle belle chanson! En une du devoir d'aujourd'hui, 11 janvier, c'est vendredi, il y a ceci, Donald Trump, impasse budgétaire, on le voit. Donc, à McAllen, au Texas, le président américain a attribué aux démocrates la responsabilité de la fermeture partielle du gouvernement qui est en « shutdown », comme on dit là-bas. Trump tente de discréditer les démocrates. Retour du refoulé « True Detective », saison 3, ou l'art de revenir aux sources. Et avis défavorable au projet de port PORTS au Saguenay. Un monde nerveux, la chronique de José Blanchette, Scott Bryson démissionne comme président du Conseil du Trésor et la laine québécoise s'est faufilée dans l'oubli. On a un beau mouton en une. La vaste majorité de la production locale est envoyée en Chine. La construction prévue de deux ports majeurs sur le Saguenay, dont le projet gazier Énergie Saguenay, va à l'encontre des objectifs du plan de rétablissement du Beluga du Saint-Laurent, conclut un avis scientifique produit par des chercheurs de Pêche et Océan Canada. Ces projets pourraient d'ailleurs avoir des impacts négatifs pour des portions de l'habitat qui sont considérées comme étant aussi essentielles que le secteur de Kakuna. L'avis scientifique produit pour évaluer les effets potentiels du projet d'exportation du gaz naturel Énergie Saguenay et du projet minier Ariane Phosphate souligne que les deux infrastructures tripleront le trafic maritime actuel dans le Saguenay pour le faire passer de 450 à près de 1300 transits par an. À eux seuls, ces deux projets augmenteront aussi de 10 % le trafic marchand total dans l'estuaire du Saint-Laurent et l'habitat du Beluga, une espèce en voie de disparition toujours en déclin et dont il ne subsiste plus qu'environ 880 individus. Cette augmentation notable du trafic aura pour conséquence d'augmenter le niveau de bruit ambiant et de réduire les fenêtres temporelles et spatiales d'opportunité pour les bélugas dans le Saguenay, son embouchure et dans l'estuaire maritime, précise le document d'une vingtaine de pages, daté de juillet 2018. Le premier ministre François Legault estime que la loi 101 doit être respectée et que l'affichage bilingue n'a pas sa place à l'hôpital de la Chute. Il y a un mois, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a annoncé qu'à la demande de l'Office québécois de la langue française, OQLF, et pour se conformer à la charte de la langue française, les panneaux bilingues installés à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital de la Chute seraient remplacés par des affiches en français seulement. Cette exigence a été dénoncée par plusieurs maires de la région, mais interrogé jeudi à ce sujet, le premier ministre François Legault a donné raison à l'OQLF. L'hôpital ne respectait pas la loi. La loi 101 doit être respectée, c'est ce que nous ferons, a-t-il indiqué. Mais comme vous le savez, les anglophones continueront d'avoir le droit de bénéficier de services en éducation et en santé, je ne vois pas l'importance d'avoir de l'affichage bilingue. Maire du canton de Gore, Scott Pierce fait valoir qu'une complicité existe entre les communautés francophones et anglophones dans la région. On n'a pas de débat linguistique ici. La frustration, c'est qu'on se demande pourquoi un fonctionnaire de Montréal transfère les chicanes linguistiques de Montréal chez nous, dit-il. Précisons que l'hôpital de la Chute n'a pas de statut d'hôpital bilingue et que les anglophones représentent 17 % de la population de la MRC d'Argenteuil. Le premier ministre du Québec, François Legault, encore une fois, a prévenu cette fois les parents catholiques mal à l'aise avec les cours d'éducation à la sexualité dans les écoles que leurs enfants ne pourront pas en être exemptés. L'archevêché de Montréal recommandait mercredi aux parents québécois opposés aux objectifs d'enseignement sexuel du ministère de l'Éducation de dispenser eux-mêmes cette matière. Selon l'archevêché, plusieurs parents estiment que le gouvernement impose des enseignements sexuels trop précoces. Les seules exemptions délivrées le seront de manière exceptionnelle pour des motifs très précis, par exemple pour des élèves ayant vécu des traumatismes importants, a rétorqué le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Mais aujourd'hui, on apprend que l'Église se dissocie de cette décision qui a été faite, le petit manuel qui a été fait, entre autres, par un abbé, l'abbé Gendreau. Plus de 2 millions de personnes ont signé en France en moins d'un mois un appel en faveur d'un recours contre l'État français pour inaction climatique. Ce seuil symbolique a été franchi jeudi selon les quatre ONG portant cet appel baptisé « l'affaire du siècle » et la toute première procédure judiciaire sur le climat menée à cette échelle. La Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam France ont adressé le 17 décembre une requête préalable au gouvernement accusant l'État de carence fautive par son action défaillante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La laine de nos moutons, ce n'est plus nous qui la cardons ni la filons. L'industrie de la laine autrefois florissante au Québec s'est progressivement faufilée dans l'oubli, emportant avec elle un pan de notre histoire et de notre patrimoine industriel. Faute de rentabilité, les moulins à carder ont fermé un à un. Les bobines de plusieurs entreprises de filature ont cessé de tourner et les éleveurs de moutons ont orienté leur cheptel vers la production de viande. Aujourd'hui, bien heureux qui réussira à trouver un bas de laine à 100 % québécois. Et pourtant, que de chandails et de tuques ont été tricotés dans cette laine qui picotait. Que d'amour a été tissé dans ces vêtements que tant de grands-mères ont confectionnés pour leurs petits. Et que de manteaux et de bottes ont été doublés par cette toison qui aidait à traverser nos hivers jadis si arides. C'est un long article signé Magdalene Boutros, je vous en lis quelques passages. Mais les temps ont bien changé. Alors qu'autrefois la laine des moutons pouvait rapporter autant à un éleveur que la viande d'agneau, la situation s'est aujourd'hui inversée. Le prix de la toison oscille ces temps-ci entre 30 et 80 cents la livre et une brebis produit entre 5 et 10 livres de laine par année, rapporte David Mastine, président de la coopérative canadienne des producteurs de laine. Avec un prix de tonte fixé entre 3 et 5 $ par bête, la marge de profit est inexistante. Dans les années 90, la filature Le Mieux, qui file de la laine depuis 1906 en Beauce, a décidé de cesser de s'approvisionner en laine auprès des éleveurs québécois. Jusqu'à ce moment-là, on faisait la collecte de pratiquement tout ce qui se produisait au Québec, se rappelle Serge Lemieux, président de l'entreprise familiale. Mais ça devenait impossible d'avoir une production constante, d'obtenir un produit qu'on pouvait répéter du point de vue notamment de la longueur de la fibre et de la couleur, explique-t-il. Qu'arrive-t-il alors aux quelques 300 000 kg de toison qui sont récoltés chaque année au Québec? La vaste majorité est envoyée à Carleton Place, en Ontario, à la coopérative canadienne des producteurs de laine. La laine y est classée selon les caractéristiques de la fibre avant d'être envoyée à l'étranger, principalement en Chine. C'est là que la laine québécoise est désormais lavée et transformée. Seulement 10 % de la laine produite au pays et désormais vendu ici, rapporte David Mastine. C'est une partie de notre patrimoine qu'on est en train de perdre, se désole France Cousteau, propriétaire avec son conjoint Louis Desrosiers des laines fines d'or, une entreprise installée à Saint-François-Xavier de Brampton en Estrie. Véritable passionné de la laine, France Cousteau a décidé en 2012 d'aller à contre-courant de la tendance. Elle a transformé son troupeau de moutons axé sur la production de viande d'agneau pour en faire un troupeau centré sur la production de laine. Depuis 2017, les laines fines d'or produisent de la laine de moutons de race finnoise, 100 % naturelle, vendue en écheveaux ou en ondins.
The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut. Though many tried, I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost, the treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete, some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. There's truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in. At least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You served them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind, never mind. I live the life I left behind. I live it full, I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed, I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
Leonard Cohen et sa chanson Never Mind.
Est-ce que ça fait partie de son plus récent album?
Non, ça c'est 2014, Modern Problems.
Ah bon, d'accord. Je la connaissais pas cette chanson-là, c'est bien. C'est envoûtant, comme dirait l'autre. Comme dirait moi. Alors, c'est vendredi, donc cette portion d'émission est consacrée aux articles provenant de journaux canadiens, francophones. L'Action, c'est un article qui s'intitule « De nouveaux récipiendaires de l'Ordre de la Pléiade », un article qui a été publié le 10, hier. La section de l'Ontario de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a annoncé en décembre dernier les noms des récipiendaires de la médaille de l'Ordre de la Pléiade pour l'année 2019. Ces personnalités ont été sélectionnées par un comité non partisan de parlementaires pour leur contribution exceptionnelle envers la francophonie ontarienne. La cérémonie d'investiture se déroulera au printemps de 2019 à l'Assemblée législative de l'Ontario à Toronto. Les récipiendaires qui seront décorés de l'insigne de l'Ordre de la Pléiade, François Bazinet, Finch, Réjeanne Bélil-Massy, Hillybury, François Boileau, Toronto, Audrey De Bruyne, Thunder Bay, Martin Lalonde, Tiny, et Anne Tenier, Hamilton. La Pléiade Ordre de la Francophonie et du Dialogue des Cultures est une initiative de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie qui a vu le jour en 1976. Elle est destinée à reconnaître les mérites des personnalités qui ont contribué à l'épanouissement de la langue française en Ontario. Les 5 grades de l'Ordre de la Pléiade sont chevalier, officier, commandeur, grand officier et grande croix. Maintenant, dans le journal Acadie Nouvelle, une mission presque impossible, 11 jours pour goûter à 26 burgers. Le Festival du burger du Grand Moncton effectue un retour en force pour sa deuxième année. Plus de restaurateurs et plus de burgers sont au menu dès le 16 janvier, dis-je bien. Une galette d'une demi-livre de bœuf Angus, farcie de fromage cheddar et servie sur pain à la brioche, le tout garni de mozzarella, de tomates, de laitue, et évidemment de 8 tranches de bacon. Il s'agit de l'un des nombreux sandwichs proposés lors du deuxième festival du burger du Grand Moncton. Au total, les amateurs de bonne bouffe auront le choix de 26 burgers créés spécialement pour le festival dans autant de restaurants, et ce donc du 16 au 27 janvier. C'est près du double comparativement à l'année dernière, a lancé d'emblée l'organisateur de l'événement, Chad Stevens. Certains des 14 restaurants qui ont participé au festival en 2018 ont vu leur vente augmenter de 25 % comparativement à la même période en 2017. C'est énorme et c'est une des raisons pourquoi plusieurs propriétaires de restaurants ont décidé d'y participer cette année. Cette année, plusieurs restaurants qui ne voulaient pas participer l'an dernier seront du festival, après avoir vu le succès du premier événement. En fait, l'événement était assez populaire l'an dernier que des gens sont sortis en plein verglas en filant les chutes sur les trottoirs du centre-ville pour faire la queue dans certains restaurants participants. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un burger? Ça, c'est pas dans le texte. Seulement 11 jours pour goûter à 26 créations culinaires éphémères, la mission est presque impossible. Même l'organisateur du festival n'a pas été en mesure de se mettre sous sa dent chacun des 26 hamburgers. J'ai dû prendre les photos de ces repas. Ça m'a pris 7 jours et chaque restaurant voulait me faire manger leur burger après les photos. J'ai dû trouver des façons originales de refuser, a-t-il souligné en rigolant. Quoique les festivaliers soient invités à parler de leur burger préféré sur les médias sociaux, l'événement n'est pas un concours. Il s'agit d'une façon de faire sortir les gens durant une période plus difficile pour les restaurateurs et de créer un engouement hivernal pour cette industrie plutôt estivale. Une carte des restaurants participants sera offerte au centre-ville de Moncton et en ligne au www.monctonburgerfest.com. bilan 2018 de radio CIFA, c'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. L'année 2018 a été pleine de nouvelles et merveilleuses occasions pour la radio CIFA ou CIFA. Nous avons eu plusieurs projets intéressants tels que Aîné pas gêné, une série d'émissions avec nos aînés toujours en mouvement dans la communauté. Nous avons aussi pu engager pendant le mois d'été un journaliste, Dean T, pour parler aux membres de la communauté et connaître leurs histoires. Lily Swim, une de nos étudiantes d'été, avait sa propre émission de l'après-midi diffusée à partir de notre studio à Tuscott. Nous avons participé au Festival acadien de Clare et au Festival du Thon à Wedgeport l'été dernier où on a vendu des billets pour notre nouveau concours Chance Vacances qui a permis de recueillir des fonds indispensables pour la radio CIFA. Est-ce que c'est CIFA ou CIVA? CIFA, oui, c'est cela. Donc, on a également commencé à vendre des billets pour le Y12. CIFA a accueilli avec succès son premier Trunk or Treat à l'Halloween avec des bonbons et du plaisir pour les jeunes et les jeunes de cœur. Cette année a aussi vu quelques changements au niveau du personnel à CIFA. Nous avons maintenant Evelyne Leblanc-Joyce le samedi matin et nous étions très tristes de voir notre directrice générale Caroline Aucoin partir pour un autre emploi plus près de chez elle au Cap-Breton. Lise Doucette a été embauchée comme nouvelle directrice générale. Restez à l'écoute de toutes les nouvelles excitantes qui se produiront à votre radio en 2019. CIFA souhaite remercier tout le monde pour leur soutien, pour son soutien au cours des 28 dernières années et nous espérons que vous continuerez à écouter le 104,1 Le son du Sud-Ouest. Donc, c'est le bilan positif de la radio CIFA et on espère la même chose et même plus pour 2019. Hein? Entre collègues, il faut s'encourager. L'un des objectifs de ce centenaire, on parle des 100 ans de Statistique Canada. C'est le slogan qui marquait le centenaire donc de Statistique Canada, 100 ans bien comptés. Un centenaire qui a été célébré en grande pompe en décembre. Retour sur un organisme qui ne cesse d'aligner les chiffres. C'est André Magnan qui signe Magny plutôt dans La Liberté. Alors, l'un des objectifs de ce centenaire était de rendre hommage aux générations de personnes qui ont amené l'organisme gouvernemental là où il est maintenant. Le site de Statistique Canada regorge d'ailleurs d'informations sur leur réalisation. Ces gens, parfois inconnus de la population, ont pavé la voie à ce que fait maintenant Statistique Canada. Celui-ci produit des statistiques sur de nombreux sujets, allant du tourisme à la justice, en passant par la santé ou l'éducation. Et comme StatCan est de son temps, il a même lancé le Centre statistique sur le cannabis afin d'assurer un suivi sur les répercussions de cette plante au plan social et économique à la suite de sa légalisation. Décidément, si Robert H. Coates, le premier statisticien fédéral et contrôleur du recensement qui a supervisé la création du Bureau fédéral de la statistique, avait pu prédire ça en 1918, à cette époque, hormis le calcul de la population, 8,6 millions contre 35,1 millions en 2016, son bureau ne s'occupait guère que de calculer certaines productions industrielles comme l'extraction minière ou encore la production de boisseaux de blé. Hélène Denis qui vous accompagne encore une demi-heure. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens, Avenir, segment culturel et les tendances alimentaires, la suite d'hier.
Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour deux, cette éternité. ton visage. Une bouche à jamais douce comme mon secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. En me fermant les yeux, je le devine au creux. J'aurais dû faire un nœud au nuage. Mais le vent s'est retourné et la vie m'a soufflé ton visage. Et je me suis saoulée pour tâcher d'oublier ton visage, qui sont tête à coller comme un drapeau mouillé en retrait. Je le redessine et le vent le ressouffle ton visage. Je suis capitaine d'un bateau de peine qui ne coulera jamais. J'ai deux fois la peine de son capitaine qui ne sont ton visage. Et je me saoule encore à Jean et à Tribord. Quel voyage! Hier et c'était demain. Demain sera toujours ton visage qui sont tête à coller comme un drapeau mouillé au retrait. Je le redessine et le vent le ressouffle ton visage. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Monsieur, que j'aimerais pour deux éternités, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. Des yeux verts pour l'amour, ton visage.
Thérèse Moncam qui chantait la chanson « Ton visage » composée par Jean-Pierre Ferland.
La voix unique de Thérèse Moncam. Merci Mathieu. Critique théâtre pour amorcer cette portion culturelle, repousser les limites. Stéphane Crête dresse un cinglant portrait de société dans la pièce Mauvais goût. Plus de 10 ans que Stéphane Crête travaille à l'écriture de Mauvais goût, un texte aussi scabreux que satirique, une sorte de vaudeville trash tout à fait hilarant. mise en lecture au Festival du Jamais Lu en 2012, publiée chez Lux Éditeur la même année, la pièce est enfin portée à la scène ces jours-ci par Didier Lucien. Le spectacle, à la fois cru et cruel, pervers en même temps que libérateur, est à juste titre déconseillé aux moins de 16 ans. Au fil d'un récit fragmenté, selon une chronologie habilement éclatée, on découvre peu à peu les sombres secrets d'un groupe d'amis composé de jeunes professionnels à l'aube de la cinquantaine. Alors que Patrick, incarné par Stéphane Crête, est en couple avec Rachel, Marie-Hélène Thibault, Michel, Sylvie Moreau, pleure la mort de son chum, Dave, Guillaume Chouinard, qui s'est soi-disant étouffé avec un os de poulet. Quant à Michel, Gabriel Sabourin, il fréquente Marie-Lune, Camille Léonard, entre parenthèses aussi, c'est la fille de Sylvie Léonard en passant, une jeune femme qui a le même âge que son fils, le fils de Michel, Maxime Lévy-Doré. Donc, il y a deux Michel, Michel Le, Sylvie Moreau, et Michel-Gabriel Sabourin. En ce qui concerne Fabrice, le mystérieux personnage campé par Didier Lucien, on se contentera de dire qu'il est adepte de BDSM. La mort de Dave, dans des circonstances pour le moins étranges, mettra les amitiés du groupe à rude épreuve. D'une soirée de commémoration à l'autre, l'auteur ne cesse de sonder les confins du mauvais goût en suscitant petit et grand malaise. Sur un ton qui est à la fois absurde et subversif, les protagonistes incarnent plusieurs des tabous de notre époque. Il est largement question de sexualité, bien entendu, mais on s'interroge aussi sur les inégalités sociales, le sentiment amoureux, les abus de pouvoir, les limites de l'humour, la peur de vieillir et les étapes du deuil. Autant d'enjeux qui résonnent puissamment dans le Québec d'aujourd'hui. Dans ce délire savamment organisé, une représentation où presque tout s'appuie sur le jeu de l'acteur, un ballet où le rire est aussi irrépressible que grinçant, il arrive que surgisse quelque chose de grave, de juste, des moments de vérité qu'on reçoit comme des « uppercuts » en plein cœur. Dans ce registre qui ne pardonne pas, Stéphane Crête, Marie-Hélène Thibault et Sylvie Moreau brillent de tout leur feu. Mention d'honneur toutefois à Évelyne Rompré, dont la simplette Carole est si désopilante, si attachante qu'on souhaiterait qu'une pièce entière lui soit consacrée. Mauvais goût est présenté jusqu'au 26 janvier à Espace Libre, une pièce que j'ai eu le grand plaisir de voir mercredi. Drôle, profondément troublante et par moments dégoûtante. Et je disais à la personne qui m'accompagnait, c'est une sorte de déclin de l'Empire américain, version 2.0, même peut-être 3.0. Alors, ce que je viens de lire, c'est la critique de Christian Saint-Pierre du Devoir d'aujourd'hui. La presse en deuil d'un de ses piliers. Notre collègue Richard René, journaliste au pupitre à la presse depuis un quart de siècle, n'est plus. Il s'est éteint dans la nuit de mercredi à hier à l'âge de 55 ans. Si Richard n'était pas une figure connue du public, le quotidien perd pourtant l'un de ses piliers. Ce gentil colosse, dont l'immense gabarit n'était dépassé que par sa générosité et son humanité, a principalement fait sa marque au pupitre, le service qui assure l'édition et la mise en page des textes. Son sens de la nouvelle, son attention aux détails ainsi que son professionnalisme ont fait de lui une référence pour tous les journalistes qui l'ont côtoyé. Il offrait une oreille attentive à ses collègues et, avec la même patience et la même amabilité, faisait figure de sage auprès de ses patrons, qui n'hésitaient pas à lui demander conseil. Toujours soucieux de livrer au lecteur un journal d'une qualité exceptionnelle, il tirait une grande fierté de son travail. Ce désir d'excellence est devenu contagieux pour des générations de journalistes au pupitre qui voyait en lui un grand frère, si ce n'est un père. En fait, peu de gens faisaient autant l'unanimité que lui. Il y a de ces personnages dans les salles de rédaction qui accomplissent depuis toujours dans l'ombre un travail colossal, admirable et nécessaire. Richard était un de ceux-là, a souligné Éric Trottier, vice-président à l'information et éditeur adjoint de la presse. Ayant succombé à un arrêt cardiaque, Richard René laisse dans le deuil sa femme, Carole, ainsi que leurs trois fils, Grégoire, Gabriel et Charles, lui aussi journaliste à la presse. Mitsou Gélina honora ce matin, c'est peut-être en train de se faire, la contribution de son grand-père au cinéma québécois et canadien en donnant le nom de Gracien Gélina à la plus récente salle du complexe MTL Grande Studio, consacrée aux productions télévisuelles et cinématographiques. Cette salle, qui portera le nom de Studio Gracien Gélina, sera utilisée dès demain car on y enregistrera l'émission en direct de l'univers de Radio-Canada. La populaire émission animée par France Beaudoin s'installera en permanence à cet endroit. Situé à Pointe-Saint-Charles et ouvert depuis 2016, MTL Grande Studio fait partie du groupe DASMO, fondé par Johan Martin, qui est le conjoint de Mitsou, Andrew Lapierre, Paul Hurteau et Mitsou. La chanteuse, comédienne et femme d'affaires est heureuse d'avoir trouvé cette avenue pour honorer Gracien Gélina, l'homme de cinéma. « Je caresse ce projet depuis très longtemps », a-t-elle dit à la presse. Beaucoup de gens connaissent Gracien comme le père du théâtre québécois, mais on connaît peu sa passion du cinéma. Je voulais souligner cet apport. Il a produit le premier court-métrage en couleur et parlant au Canada, soit La Dame aux Camélias, la vraie, en 1942, qu'il projetait dans ses Fridolinades. Puis, en 1953, il a réalisé Ticoc, qui a été le premier film canadien-français avec un propos contemporain. Gracien Gélina tenait la vedette dans Ticoc, co-réalisé avec René Delacroix. Plus tard, il jouera dans quelques autres films, dont Red de Gilles Carl, Bonheur d'occasion, et Les Tisserands du pouvoir de Claude Fournier, ainsi qu'Agnès of God de Norman Jewison. Tanguy, le retour dans le lit parental. Bien sûr, il leur dit « Je t'aime maman et je t'aime papa ». Et comme dans le premier opus, sa maman, Sabine Azéma, a toujours le regard traversé par l'angoisse et son papa, André Dussolier, contient sa colère. Tanguy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, débarque de nouveau dans le lit parental et les salles de cinéma françaises le 10 avril. 16 ans après le premier film, Tanguy, interprété par Éric Berger, qui avait quitté la maison pour s'installer en Chine, revient chez papa-maman, en compagnie de sa fille Zou, car sa femme l'a quitté. Et il trouve le nid familial très confortable. Distribué par les films Opal, Tanguy est attendu le 3 mai au Québec. Et finalement, Tintin, qui fête ses 90 ans, c'est hier qu'on a souligné son 90e anniversaire, va bientôt avoir droit à un deuxième film au cinéma à l'initiative du duo Peter Jackson-Steven Spielberg, une nouvelle qui semble faire très plaisir à Mathieu, mais aussi peut-être à un album inédit, a indiqué le directeur éditorial des éditions Casterman. Alors, un deuxième film et peut-être un album inédit. Il y a plusieurs pistes, ça pourrait être un mélange du sceptre sceptre, oui, d'autocar, merci. C'est parce que je n'étais pas sûre d'avoir bien prononcé le sceptre d'autocar et de l'affaire Tournesol, a souligné Benoît Mouchard. Quand il y a une trilogie à Hollywood, le deuxième est un peu plus sombre. Du côté des livres, un inédit pourrait enfin arriver en librairie. L'histoire de Tintin et le Thermo Zéro est terminée, mais le dessin n'est pas totalement ancré, a dit Mouchard.
L'alpha ou l'oméga, inégal chaque fois. Quand on se voit, c'est déjà ça, tu restes mon dada. Les nuits ne se suivent pas, de l'éclipse au nirvana. Parfois c'est trop, c'est ce que tu vaux, l'extravaganza. Garde une place entre les draps pour nos ébats. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Oh, j'ai les bleus sauf les jours où tu reviens. Pour me saouler à tes mots et jouer entre tes mains. Tous les jours sont des blouses quand c'est en vain. Reviens, chaque jour reviens.
Une nouveauté toute fraîche de M. Alexandre Desilets, ça s'appelait Extravaganza.
Allons-y donc avec la chronique de Sophie Durocher, le ridicule made in France. Avant les fêtes, dans ma chronique en français, s'il vous plaît, je me désolais de tout cet anglais qu'on laisse envahir le Québec. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console, écrit-elle. Et quand on se compare avec les Français, on se rend compte que nos cousins sont complètement crazy de l'English. Ridiculous. The French speak the English. Voici les perles que j'ai glanées ici et là dans le magazine français par excellence, le Elle, uniquement au cours des dernières semaines. Un texte sur les produits de beauté intitulé Beauty Scoop. Un autre sur les derniers coups de cœur mode, le Fashion Crush. Et les coups de cœur beauté, vous l'aurez deviné, le Beauty Crush. Un article sur Victoria Beckham s'intitule Space Girl, celui sur les politiciennes Ladies First. Quand on parle d'un produit écologique, on dit qu'il est green. Une brève sur un livre de cuisine est affublée du titre I Feel Food. Un texte sur la remise en forme, Body Positive, of course. Page après page, on est dans le buzz, le RT, le comeback, la hit list, le hit bag, le beauty scoop, le sexy smart, Blake is so lovely, l'inspiration street bien au chaud, S-H-O-W, ou encore où choper une e-exclusivité. Vous voulez vous procurer des produits? Allez sur le L-Store pour X-Mas Christmas. Et on n'oublie pas de souhaiter Happy Birthday à Karl Lagerfeld. La chroniqueuse Beauty Note recommande son hotspot. Dans un court texte sur Sugar Sammy, on parle de sa punchline. Une entrevue avec une mannequin dans laquelle on lui demande si elle est une beauty star s'intitule Beauty Talk. Elle recommande un décoiffé easy, un look nude ou un liner lagoon. Le mot mode a disparu. On ne parle que de garder le cap fashion, la gazette fashion, fashion alert. C'est Coco Chanel qui doit se retourner dans sa tombe. Cette grande dame disait « la mode se démode, le style jamais ». Même les pubs y passent. Pour annoncer l'autre parfum de Lancôme, « La vie est belle », on utilise le slogan « Who will make you happy today ?» Dans une publicité pour un système de son, on parle de mettre le feu au dance floor. Au pays de Molière, on parle de plus en plus la langue de Shakespeare. Et en plus, ils n'ont même pas la même excuse que nous qui sommes entourés d'un continent anglophone. Au secours, 3 points d'exclamation. La chronique gastronomique s'intitule « Food », un dossier sur les meilleurs repas pour le petit-déjeuner affublé du titre « Meilleur breakfast », un autre sur les bons produits pour la douche parle de « showering ». Du coup, je me demande si je dois prendre mon breakfast avant le showering ou après. Je suis toute « mixed up ». Help! À propos de l'article de Sophie Durocher, ça me fait penser au titre de l'émission de Sébastien Benoît sur la chaîne Zest, qui est spécialisée en nourriture, qui s'intitule « Coup de food », F-O-O-D. Une excellente émission, mais titre, en tout cas, qui ne fait pas nécessairement l'unanimité chez la personne qui vous parle, entre autres. Tendance alimentaire 2019, hier, je vous avais lu une partie de cette chronique qui est diffusée sur la presse dans la section pause. On était rendu au numéro 4, ce mot qui commence par V. Pour notre santé, celle de notre planète et celle de notre marge de crédit, c'est un article, je vous le rappelle, signé Marie Allard. Donc, après le plastique, qui fait partie des tendances qui vont influencer notre alimentation en 2019, on ne mangera pas de plastique, mais on va manger. Quand on va aller chercher des choses, on va essayer de les acheter en vrac plutôt que de les mettre dans des sacs de plastique. Ça sera tendance et ce l'est déjà. Les produits alimentaires locaux, produits alimentaires responsables en général, continueront d'être porteurs. Troisième, légumes. Et quatrième, donc, ce mot qui commence par V. Pour notre santé, celle de notre planète et celle de notre marge de crédit, on réduit notre consommation de viande, un mot qu'on n'ose pratiquement plus prononcer comme Voldemort. Aujourd'hui, les Canadiens mangent 94 millions de kilos de bœuf en moins par année comparé à 2010. Selon le rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2019 des universités Dalhousie et Guelph, cela entraîne une quête vers des protéines de substitution, observe Francine Rodier. Légumineuses, noix, graines, insectes et pseudo-céréales sont au menu. Ce qui est nouveau, c'est que ces options de rechange veulent séduire les carnivores avec des saveurs fumées, grillées, etc. Aux Pays-Bas, le livre de cuisine Man.Eat.Plant propose aussi ainsi des recettes de faux bœuf Wellington et de VG prosciutto. C'est un signal qui nous montre que ce n'est plus macho ni nécessaire de manger des produits animaux, lit-on sur le site maneatplant.com. Champignons en cinquième, riches en umami, un goût savoureux qu'on retrouve notamment dans la sauce soya et le parmesan. Les champignons volent la vedette en 2019. Les champignons comme le pleurote du panicot joueront un rôle clé sur leur saveur et leur texture permettant de créer de faux jerky, de faux squens de porc frites et du faux bacon satisfaisant et croustillant, prévoit Whole Foods Market. 6. Prêt à explorer au lieu de manger du pâté chinois arrosé de ketchup. Les enfants de 2019 réclament un pad thai ou un bol poké. Pokéball en français, en anglais, mais bol poké, c'est bon, hein? Oui, on met toutes sortes de choses là-dedans, du poisson, des légumes. Pas étonnant, leurs parents sont aventureux à table. En 2017, il y a eu 35 % plus de lancements d'aliments et de boissons identifiés comme étant des découvertes à l'échelle mondiale qu'en 2016, selon Innova Market Insight. 7e vague du Pacifique. Les saveurs du littoral du Pacifique, tant à l'est qu'à l'ouest, ce qui englobe l'Asie, l'Océanie et l'ouest des Amériques, sont en vogue, d'après Whole Foods Market. Fruits du dragon, de la passion, jaqué en remplacement de la viande, extraits de fruits du moine comme édulcorant, crevettes séchées et pâtes sèches sont de plus en plus présents. Du faux thon en conserve à base de protéines végétales sera bientôt offert par l'entreprise Good Catch, ce qui réjouira ceux qui se privent de ce poisson surpêché. Cannabiscuit, le cannabis sera pour le monde agroalimentaire la prochaine manne semblable à la folie du sans gluten. Un miracle venu de nulle part, prédit le rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2019. Retour du gras, grâce à la popularité des régimes keto ou cétogènes, paléo et vegan, une étonnante combinaison des diètes paléo et vegan, nommée tendance de 2019 par Pinterest, les gras sont à l'honneur. Et 10e, s'alimenter en ligne. Les achats d'aliments en ligne sont plus répandus, plus crédibles et gagnent progressivement la confiance des consommateurs, indique Francine Rodier. Alors voilà, en gros, tendance alimentaire 2019, un dossier complet intitulé « Champignons gras et sans plastique », Marie Allard dans la presse, c'était hier. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. En ce vendredi, je vous souhaite une agréable fin de semaine et j'espère vous retrouver lundi. Un grand merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous remercie, vous, d'avoir été là. Prenez soin de vous, profitez-en bien et couvrez-vous bien si vous sortez parce que c'est pas chaud pour la pompe à eau.